Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 28 juillet 2025. Voici les principaux titres de l'actualité.
Consultation commerciale, Lee Jae-myung prône des négociations basées sur l'intérêt national. Pyongyang rejette la possibilité d'un dialogue avec Séoul. Et dans le reste de l'actualité, nombreux records de résidents étrangers en Corée du Sud.
À 4 jours de l'entrée en vigueur des tarifs douaniers américains, le gouvernement sud-coréen se mobilise pour y faire face. Le bureau présidentiel a tenu des réunions ministérielles vendredi et samedi dernier. Selon sa porte-parole hier, le président Lee Jae-myung s'est régulièrement tenu informé de l'avancement des consultations bilatérales, tout en demandant à ses représentants de prioriser l'intérêt national en prenant en compte les enjeux internationaux. À Washington, Kim Jong-un, le ministre de l'Industrie ainsi que Johan Gu, délégué au commerce, ont rencontré jeudi dernier Howard Lutnick, secrétaire au commerce, et Jamison Greer, représentant au commerce. Les négociations se sont poursuivies le lendemain à New York. La partie américaine demande d'assouplir les restrictions d'importation de riz et de viande de bœuf. Face à cette pression, Séoul devrait utiliser comme levier son industrie navale très avancée à laquelle s'intéresse l'administration Trump pour renforcer ses forces maritimes. Du fait des négociations sino-américaines aujourd'hui et demain, il ne reste que 2 jours au pays du matin clair pour obtenir un accord. Dans ce laps de temps, le vice-premier ministre à l'économie Koo Yoon-chol rencontrera le secrétaire au trésor Scott Bessent, tandis que le ministre des Affaires étrangères Cho Yang s'entretiendra avec son homologue américain Marco Rubio. Les canaux de discussion commerciale, diplomatique et sécuritaire confondus se mobilisent pour préserver au maximum l'intérêt national, alors qu'il est estimé que l'application des tarifs réciproques de 25% pourrait réduire le PIB sud-coréen de 0,4%.
Au chapitre nord-coréen, la Corée du Nord a réagi pour la première fois aux initiatives du gouvernement de Lee Jae-myung visant à apaiser les tensions dans la péninsule. Dans un communiqué publié ce lundi, Kim Yo-jong a déclaré que la suspension des émissions de propagande anti-Pyongyang n'avait rien d'appréciable, ajoutant que cela revenait simplement à renoncer à quelque chose qui n'aurait jamais dû être fait. La puissante sœur de Kim Jong-un a également affirmé ne voir aucune différence entre le président sud-coréen actuel et son prédécesseur. Selon elle, la nouvelle l'administration a beau multiplier les discours agréables à entendre, elle garde une foi aveugle dans l'alliance sud-coréano-américaine, tout comme celle de Yoon Suk-yeol. Kim a poursuivi en martelant que la réconciliation ou la coopération avec la Corée du Sud n'était envisageable en aucun cas, quel que soit le pouvoir en place, démocrate ou conservateur. Elle a ensuite ajouté que le ministère sud-coréen de la réunification devait être démantelé vu la séparation irréversible entre les deux Corées, avant de souligner que son pays n'était intéressé par aucune des propositions formulées par Séoul et qu'il n'avait aucune intention de s'asseoir en face de celui-ci. À la suite de cette déclaration, le bureau présidentiel sud-coréen a indiqué suivre de près la position du Nord, avant d'ajouter que ses propos illustraient la méfiance persistante entre les deux parties, résultant de plusieurs années de politique d'hostilité, et que le gouvernement mettrait en œuvre les actions nécessaires de manière cohérente.
La Corée du Nord a célébré le 27 juillet le 72e anniversaire de la signature de l'armistice de 1953 qui a mis fin à la guerre fratricide de 3 ans avec le Sud. À l'occasion de cette journée appelée Jour de la Victoire, divers événements ont été organisés à Pyongyang. La veille, un bal en plein air pour les étudiants de la capitale s'est tenu sur la place Kim Il-sung. C'est ce qu'a rapporté dimanche la KCNA, l'agence de presse officielle du régime. Le pays communiste commémore cet anniversaire qui, selon lui, marque une victoire dans sa lutte contre les États-Unis. En 1973, il a instauré la journée de la victoire dans la grande guerre de libération de la patrie, avant de faire de cette date une fête nationale officielle en 1996. En général, à cette occasion, le dirigeant nord-coréen prononce des discours critiquant Séoul ou Washington, tout en réaffirmant notamment sa volonté de développer l'arme nucléaire. C'était par exemple le cas en 2022 lorsque Kim Jong-un a fustigé le gouvernement de Yoon Suk-yeol à peine arrivé au pouvoir au sud. Cependant, cette année, aucun message de ce type n'a été rapporté par les médias nord-coréens. En revanche, la presse du Royaume Ermite en a profité pour raviver l'esprit anti-américain. Dans un éditorial, le journal officiel du Parti des travailleurs, le Dodong Shinmun, a qualifié cette journée de grande fête pour le peuple nord-coréen, marquant selon lui la victoire contre les impérialistes américains qui se vantent d'être les meilleurs du monde.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
L'Assemblée nationale a ouvert les discussions autour du projet de loi sur les syndicats appelé loi de l'enveloppe jaune qui vise à limiter l'action en dommages-intérêts du patronat à l'encontre des grévistes. La commission permanente de l'environnement et du travail a constitué une sous-commission à l'initiative du Minjou afin d'en entamer l'étude. Une réunion d'urgence a également été tenue entre le gouvernement et le parti au pouvoir pour débattre des mesures qui entendent restreindre le champ des grèves légales et qui avaient suscité une vive opposition des syndicats. Ils sont convenus de soumettre à l'examen parlementaire un texte reprenant des dispositions similaires à celles du projet de loi sur lequel l'administration précédente avait opposé son veto. La formation présidentielle a affirmé que le texte était destiné à garantir les droits des travailleurs et a exprimé sa volonté de le faire adopter durant la session parlementaire extraordinaire en cours. Chun Hyun-hee, membre du comité suprême du parti, a déclaré qu'il était nécessaire de rompre avec un système dominé par la recherche du profit tout en appelant à accélérer le processus législatif. Le parti du pouvoir du peuple a quant à lui dénoncé une tentative de légaliser les grèves illégales et a demandé l'arrêt immédiat de la procédure. Son président du comité d'intervention d'urgence, Song Hyun-suk, a critiqué la mesure en la qualifiant de, je cite, « loi attribuant une licence aux grèves illégales en excluant toute possibilité de recours en indemnisation ».
La Corée du Sud se place au 12e rang au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. En termes de proportion de l'industrie manufacturière dans le PIB, toutefois, cette performance risque de rendre l'économie sud-coréenne dépendante des exportations, plus vulnérable aux mesures tarifaires américaines. Selon le Bureau des politiques budgétaires de l'Assemblée nationale en 2023, l'industrie manufacturière a représenté 27,6% du PIB, une proportion supérieure à la moyenne de l'OCDE qui s'établit à 15,8%. En 2015, ce chiffre avait atteint 30,2% avant de descendre à 28% entre 2019 et 2022. Au classement, l'Irlande est en tête avec 31% en raison des activités à haute valeur ajoutée des multinationales implantées sur son territoire. Les pays du matin clair devancent l'Allemagne et le Japon. À noter que la part des services est passée de 59,8% en 2015 à 63% en 2023. Le bureau a indiqué que contrairement à d'autres pays industrialisés, la Corée du Sud maintient un certain niveau de proportion de l'industrie manufacturière tout en développant son industrie des services.
Le nombre d'étrangers en Corée du Sud a atteint 2 732 797, soit 1,5% de plus sur un mois, un record. Selon le ministère de la Justice, près de 1,6 million d'entre eux sont présents pour un long séjour, études ou travail, et plus de 550 000 sont des Sud-Coréens de nationalité étrangère qui sont domiciliés localement. Les individus restants séjournaient pour une durée limitée comme pour le tourisme. Après son pic en 2019, avec environ 2 520 000 personnes, ce chiffre a commencé à reculer en raison de la pandémie de Covid-19 pour passer sous la barre des 2 millions en 2021. Il a de nouveau augmenté à partir de 2023 pour s'établir à 2,65 millions l'an dernier. En détail, les Chinois étaient les plus nombreux devant les Vietnamiens et les Américains. Par tranche d'âge, la part de trentenaires était la plus importante, suivie par les jeunes dans la vingtaine. Par type de visa, le F4 destiné aux Sud-Coréens de nationalité étrangère et le E9, le visa de travail non spécialisé, étaient les plus répandu. Enfin, la moitié des étrangers séjournaient dans la région métropolitaine de Séoul, devançant les provinces de Gyeongsang et celle de Chungcheong.
Et pour terminer, Faker, de son vrai nom Lee Sang-hyuk, a renouvelé son contrat pour 4 ans avec T1. L'équipe sud-coréenne a annoncé cette nouvelle juste après le match face à Red Force de Nongshim dans le cadre de la LCK, la Ligue sud-coréenne de League of Legends LOL, tenue hier à l'Inspire Arena, une salle omnisport située à Incheon. Faker a fait ses débuts en 2013 avec l'équipe SK Telecom T1, devenue T1, qu'il n'a jamais quitté jusqu'ici. Il a remporté 5 fois le championnat du monde de LOL en 2013, 2015, 2016, 2023 et 2024, et la médaille d'or aux Jeux asiatiques de Hangzhou 2022 en Chine. Riot Games, le développeur et exploitant du jeu, a reconnu ses contributions dans la prospérité de LOL en l'intronisant en premier au Panthéon des légendes de l'e-sport lancé en 2024.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Hong-joo et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à l'écoute de KBS World Radio.